Alors, je ne sais pas trop quoi vous lire parce que j'ai deux textes. Il y en a un qui est plutôt rigolo et un qui est plutôt hypnotique. Alors, hypnotique, peut-être que, vu l'heure... mais c'est... Bon, alors, le rigolo. Alors, le rigolo, c'est parce que j'ai... Comme je vous disais tout à l'heure, liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas vraiment des mots qu'on trouve souvent sous la plume de Proust. Et j'en ai choisi un où figure ce mot égalité, mais vous allez voir qu'il s'agit avant tout d'humour, voire d'ironie, dans la description de la politesse des grands envers les petits, enfin, en l'occurrence, hein, vu l'univers de la recherche, des aristocrates envers les bourgeois. Alors ça se passe à Balbec, c'est-à-dire à Cabourg, sur la promenade de la Digue, alors que le narrateur et sa grand-mère, c'est une personne modeste, digne représentante de la bourgeoisie de province. Donc le narrateur et sa grand-mère sont en compagnie de la marquise de Villeparisis, une amie de pension de la grand-mère, et la grand-mère est bien embêtée de la retrouver dans ce lieu de villégiature parce qu'elle a horreur des mondanités. Donc ils sont là tous les trois, et c'est alors qu'apparaît la princesse de Luxembourg que la marquise de Villeparisis va présenter au narrateur et à sa grand-mère. Le narrateur, il est adolescent, quelque chose comme ça. En sortant du concert, comme... En reprenant le chemin qui va vers l'hôtel, nous nous étions arrêtés un instant sur la digue, ma grand-mère et moi, pour échanger quelques mots avec Madame de Villeparisis, qui nous annonçait qu'elle avait commandé pour nous à l'hôtel des croque-monsieur et des œufs à la crème. Je vis de loin venir dans notre direction la princesse de Luxembourg, à demi appuyée sur une ombrelle, de façon à imprimer à son grand et merveilleux corps cette légère inclinaison à lui faire dessiner cette arabesque si chère aux femmes qui avaient été belles sous l'Empire et qui savaient, les épaules tombantes, le dos remonté, la hanche creuse, la jambe tendue, faire flotter mollement leur corps comme un foulard autour de l'armature d'une invisible tige inflexible et oblique qui l'aurait traversée. Elle sortait tous les matins faire son tour de plage, presque à l'heure où tout le monde, après le bain, remontait pour le déjeuner, et comme le sien était seulement à 1h30, elle ne rentrait à sa villa que longtemps après que les bagneurs avaient abandonné la digue déserte et brûlante. Madame de Villeparisis présenta ma grand-mère, voulut me présenter, mais dut me demander mon nom car elle ne le se rappelait pas. Elle ne l'avait peut-être jamais su, ou en tout cas avait oublié depuis bien des années à qui ma grand-mère avait marié sa fille. Cependant, la princesse de Luxembourg nous avait tendu la main et, de temps en temps, tout en causant avec la marquise, elle se détournait pour poser de doux regards sur ma grand-mère et sur moi, avec cet embryon de baiser qu'on ajoute au sourire quand celui-ci s'adresse à un bébé avec sa nounou. Même dans son désir de ne pas avoir l'air de siéger dans une sphère supérieure à la nôtre, elle avait sans doute mal calculé la distance, car, par une erreur de réglage, ses regards s'imprégnèrent d'une telle bonté que je vis approcher le moment où elle nous flatterait de la main comme deux bêtes sympathiques qui eussent passé la tête vers elle à travers un grillage au jardin d'acclimatation. Aussitôt, du reste, cette idée d'animaux et de bois de Boulogne prit plus de consistance pour moi. C'était l'heure où la digue est parcourue par des marchands ambulants et criards qui vendent des gâteaux, des bonbons, des petits pains. Ne sachant que faire pour nous témoigner sa bienveillance, la princesse arrêta le premier qui passa. Il n'avait plus qu'un pain de seigle, du genre de ceux qu'on jette aux canards. La princesse le prit et me dit « C'est pour votre grand-mère ». Pourtant, ce fut à moi qu'elle le tendit en me disant avec un fin sourire « Vous le lui donnerez vous-même », pensant qu'ainsi mon plaisir serait plus complet s'il n'y avait pas d'intermédiaire entre moi et les animaux. D'autres marchands s'approchèrent, elle remplit mes poches de tout ce qu'ils avaient, de paquets tout ficelés, de plaisirs, de babas et de sucre d'orge. Elle me dit « Vous en mangerez et vous en ferez manger aussi à votre grand-mère ». Et elle fit payer les marchands par le petit nègre habillé en satin rouge qui la suivait partout et qui faisait l'émerveillement de la plage. Puis elle dit adieu à Madame de Villeparisis et nous tendit la main avec l'intention de nous traiter de la même manière que son amie, en intime, et de se mettre à notre portée. Mais cette fois, elle plaça sans doute notre niveau un peu moins bas dans l'échelle des êtres, car son égalité avec nous fut signifiée par la princesse à ma grand-mère au moyen de ce tendre et maternel sourire qu'on adresse à un gamin quand on lui dit au revoir comme à une grande personne. Par un merveilleux progrès de l'évolution, ma grand-mère n'était plus un canard ou une antilope, mais déjà ce que Madame Swann eût appelé un baby. Enfin, nous ayant quittés tous trois, la princesse reprit sa promenade sur la digue ensoleillée en incurvant sa taille magnifique qui, comme un serpent autour d'une baguette, s'enlaçait à l'ombrelle blanche imprimée de bleu que Madame de Luxembourg tenait fermée à la main. C'était ma première altesse. La seconde, on le verra plus tard, ne devait pas moins m'étonner par sa bonne grâce. Une forme de l'amabilité des grands seigneurs, intermédiaire bénévole entre les souverains et les bourgeois, me fut apprise le lendemain quand Madame de Villeparisis nous dit « Elle vous a trouvé charmant ». C'est une femme d'un grand jugement, de beaucoup de cœur. Elle n'est pas comme tant de souveraines ou d'altesses. Elle a une vraie valeur. Et Madame de Villeparisis ajouta d'un air convaincu et toute ravie de pouvoir nous le dire, « Je crois qu'elle serait enchantée de vous revoir. »